Salut à tous, c'est Nicolas. Aujourd'hui, je suis très heureux de vous retrouver pour le 3e épisode du CKB Show. Alors, le CKB Show, pour ceux qui ne nous suivaient pas encore, c'est un podcast qui traite essentiellement des Chromebooks, de Chrome OS et de tout l'univers qui gravite autour. Alors, évidemment, on parlera, comme je vous l'ai dit, des Chromebooks, des ordinateurs sous Chrome OS, des ordinateurs portables, mais également des Chromebits, des Chromebase, des Chromebox et des extensions, des applications Chrome disponibles forcément sur nos appareils Chromebook, mais aussi des applications qui débarquent progressivement d'Android avec le Google Play Store qui arrive très prochainement sur la plupart des Chromebooks. Alors pour m'accompagner, comme d'habitude, j'ai Thomas qui se lève exprès pour nous de bonne heure et je crois qu'il a fini son café et je crois, Thomas, que tu es en grande forme, n'est-ce pas, Thomas?
Salut Nico, ouais ça va, c'est le début de la journée pour moi ici, mais comme tu dis, je démarre en fanfare avec l'enregistrement.
Et c'est nickel parce que là on a un programme qui est quand même pas mal chargé, avec, pour une fois, on ne parlera pas que de Chromebook. Alors ça va en étonner sûrement quelques-uns, mais c'était important d'en parler parce que la concurrence arrive et il faut qu'il y ait de la concurrence pour que nos appareils soient de plus en plus performants et surtout de plus en plus accessibles au plus grand nombre. Alors, aujourd'hui, le sommaire, je vais le faire, mais finalement, c'est tout toi, Thomas, qui va travailler aujourd'hui. Moi, je vais juste écouter, puis échanger un petit peu avec toi, discuter, blaguer, parce que tu nous as apporté quand même des sujets qui sont super intéressants. Alors, typiquement, le sommaire, c'est pas très compliqué. On va vous parler de Microsoft, et oui, notre grand rival qui arrive sur le marché des Chromebooks avec un système d'exploitation, on va dire, allégé, le Cloud Shell de Windows, mais aussi avec une nouvelle gestion des flottes professionnelles, scolaires et compagnie qui s'appelle Intune. Et puis ensuite, nous allons échanger autour d'un nouveau concept, ou enfin un concept qui va prendre le pas petit à petit sur les ordinateurs que nous pouvons connaître aujourd'hui. Le nom de code de ce nouveau concept s'appelle Poppy, qui est plutôt intéressant, et on va voir que nos Chromebooks vont pas tarder à évoluer et devenir de plus en plus présents dans notre vie et à tout moment de notre journée. Nous allons, faire un petit mea culpa, parce que on a un petit peu tiré des plans sur la comète. Alors certains nous ont aidés à tirer des plans sur la comète, on a un mea culpa à vous faire, et on vous expliquera pourquoi tout à l'heure dans la suite du podcast. Ensuite, après le mea culpa, une bien triste nouvelle, la disparition d'un Chromebook. Paix à son âme, un Chromebook qui a fait les premières armes de Chrome OS dans les ordinateurs portables. On l'appelle, le nom de code c'est CR48, alors c'est pas un film de science-fiction, c'est bien un Chromebook. Ensuite, l'évolution, un peu d'actualité autour d'un nouveau concept pour sécuriser les Chromebooks, l'accès au Chrome OS, un concept qui débarque directement de l'univers de la mobilité avec les smartphones et les tablettes, et puis un petit peu la science-fiction. Enfin, Thomas, tu vas nous parler d'un truc qui va tous nous agacer parce que tu es l'heureux propriétaire depuis une semaine maintenant, peut-être un peu plus, d'un Samsung Chromebook Plus. Et là, tu vas nous narguer tous, tu vas nous expliquer un petit peu ton retour, nous donner tout ce que tu as pu découvrir tout au long de cette semaine autour de cet appareil et nous donner vraiment ce que tu as aimé et ce que tu as moins aimé, si on peut dire ça comme ça. Alors sans transition aucune, je crois, on va passer directement au dur du sujet avec Microsoft qui enfin essaye de contre-attaquer Chromebook et Chrome OS. Alors je te laisse la parole dessus parce que c'est toi qui as voulu échanger autour de ça, Thomas. Qu'est-ce que tu peux nous dire du Cloud Shell, un Chrome OS-like, c'est ça?
Ouais, c'est exactement ça. C'est vrai qu'on parle pas beaucoup de Microsoft dans ce podcast, et pour cause, c'est un podcast sur les Chromebooks et Google essentiellement. Mais c'est assez intéressant de voir que Microsoft, qui avait une sacrée longueur d'avance l'ordinateur individuel, on va dire, est en train de doucement sentir qu'il y a la concurrence qui se réveille. Donc pendant toute une époque, on parlait de Mac et de Apple qui, en gros, au cours des 10 dernières années, a grignoté pas mal de parts de marché à Microsoft, en particulier dans le haut de gamme. Mais finalement, ça reste assez limité et Microsoft et Windows sont quand même loin d'être menacés. Mais là, on se retrouve avec l'émergence des Chromebooks depuis quelques années à une nouvelle forme de concurrence, mais cette fois-ci, c'est plutôt sur le bas de gamme. Donc Microsoft se trouve d'un côté menacé sur le haut de gamme et de l'autre côté sur le bas de gamme. Donc Donc je pense que ils prennent les choses très très sérieusement et ils se disent que bah, il serait temps pour eux de faire quelque chose qui puisse leur permettre d'être en concurrence frontale avec les Chromebooks. On a une deuxième news qui couvre aussi ça en parlant d'éducation un petit peu tout à l'heure, mais l'idée de Cloud Shell, qui est un nom assez étrange d'ailleurs pour un système d'exploitation, c'est de faire quelque chose qui soit une version très 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 épurée de Windows, qui permettrait on va dire des fabricants de laptops de faire tourner quelque chose qui ressemble à Windows, mais pour des configs qui sont plus petites et donc moins chères que des configs Windows classiques en fait.
Si j'ai compris un petit peu le Cloud Shell, je crois que c'est le nom de code. Est-ce qu'on n'est pas très sûr qu'il s'appellera comme ça? C'est une espèce de Windows RT, donc j'espère qu'il y aura un meilleur succès que Windows RT pour Microsoft. C'est en gros, ils vont essayer de révolutionner les trucs en mettant simplement le noyau Microsoft sur un ordinateur. Et un peu comme un Chromebook finalement, juste le noyau et toutes les fonctionnalités, les applications seraient sur leur serveur. Alors je crois que chez Microsoft, pardon, c'est un serveur Azure qui est propriétaire et où ils stockeraient, en fait, on accéderait à ce serveur pour pouvoir utiliser typiquement les applications comme Office ou comme enfin toutes les applications Microsoft et autres applications qui seraient fonctionnelles sur un ordinateur. En tout cas, moi, c'est ce que j'ai compris. Je ne sais pas si tu avais un peu plus d'infos autour de ça, toi.
Ouais, voilà, l'idée c'est ça, c'est que de la même façon que Chromebook, enfin, ou Chrome OS, en fait, c'est finalement un Linux avec une interface très très minimale et une version de Chrome, donc Chromium, qui est un peu sous stéroïde, on va dire, qui est très. Qui est, comment est-ce qu'on peut dire ça? Qui occupe la partie principale de l'interface. Je pense que l'idée de Microsoft est de faire quelque chose de très très épuré au niveau du système, mais par contre d'avoir quelque chose de très solide au niveau du navigateur pour permettre aux gens d'accéder bah, à toute leur suite bureautique en ligne. On parlait d'Office 360 il y a quelques temps. Et donc je pense que c'est un peu l'idée
C'est
derrière. Ouais.
ça. Et en plus, ça fonctionnerait sur des machines, enfin des processeurs ARM, je crois, comme nos smartphones, c'est ça, hein, l'ARM.
Ouais, donc là encore, je parlais de petites configs tout à l'heure. C'est vrai que l'idée d'avoir un système d'exploitation qui tourne sur des machines avec des configurations qui sont moins gourmandes en batterie et moins gourmandes en ressources et qui coûtent aussi moins cher à développer. On en parlera un petit peu plus tard tout à l'heure quand on parlera du Samsung Chrome Plus, mais Chromebook Plus. Mais je pense que l'idée, c'est d'avoir quelque chose qui soit très très comparable à Chromebook et qui permettra bah, à Microsoft de concurrencer directement les
Donc c'est une
Chromebooks
bonne
en fait.
nouvelle pour nous consommateurs, qu'on soit sur Microsoft ou sur Chrome OS finalement, puisqu'on va se retrouver avec sur le même secteur de le secteur d'activité ou le secteur scolaire par exemple ou professionnel, on va se retrouver avec des produits de moins en moins chers puisqu'ils vont forcément, sauf s'il y a une entente illégale et compagnie, mais s'il n'y a pas d'entente entre eux, ils vont être obligés de se battre à coup d'argent et descendre le prix des produits. Et ça peut être plutôt intéressant pour nous, je pense.
Ouais, en effet, je pense que c'est toujours bon d'avoir de la concurrence. Et puis là, c'est encore une fois concurrence vraiment d'égal à égal, quoi. C'est pas si on veut avoir une machine un peu puissante et un Windows, on paye 30 ou 40% de plus. Là, on aura vraiment la possibilité d'avoir soit Windows, soit Chrome OS sur des machines à prix probablement comparables, dans des conditions d'utilisation qui seront globalement comparables. Donc ça va être assez
Ouais, ça va être
intéressant à
bien.
suivre.
Moi, j'attends avec impatience le plus, enfin qu'on en sache un peu plus autour de ça, parce que pour l'instant, c'est plus qu'une rumeur, puisque c'est Microsoft même qui l'a annoncé. Par contre, ils sont pas rentrés trop dans le détail. Tu sais un peu quand est-ce qu'on aura plus d'informations sur ce produit?
Alors c'est difficile à savoir avec précision, mais il y a un truc qu'il faut garder en tête, c'est qu'il y a la conférence de Microsoft qui s'appelle la conférence Build, ici à San Francisco, qui aura lieu au début du
Ouais,
mois de
10 et
mai, c'est
12 mai, je
ça?
crois.
Ouais,
Enfin, c'est pas je crois, je suis sûr.
donc voilà, donc je pense qu'on en saura un peu plus. Je suis désolé, il y a une ambulance qui est en train de passer derrière, ça va faire un peu de bruit. mais donc en effet, il y aura probablement Ouais, beaucoup de voitures qui passent avec beaucoup de sirènes. On en saura plus à ce moment-là, ouais. C'est vrai qu'ils ont annoncé les choses. Je pense qu'ils ont tout intérêt à annoncer qu'ils préparent quelque chose, parce qu'il doit sûrement y avoir des gens qui se posent des questions sur la façon dont Microsoft va réagir à l'engouement qui est en train de se créer autour des Chromebooks. Mais c'est vrai que je pense que pour l'instant, c'est juste une annonce en disant « Attendez pas si vite, nous aussi on prépare quelque chose. » Mais il va falloir attendre un petit peu pour savoir exactement comment
Bah,
est-ce que
c'est
ça va
cool.
se
Et
matérialiser.
si j'ai compris, c'est près de chez toi, donc tu seras peut-être détaché là-bas, tu vas peut-être aller faire un petit tour. Tu vas peut-être être notre espion.
Écoute, à voir, ouais, à voir. C'est une bonne question. J'avoue que les conférences Microsoft, à la base, c'est pas forcément ce qui me fait vibrer le plus. Mais
Totalement.
après tout, à l'occasion, ça peut peut-être être intéressant. Et puis, il y a aussi un truc ici à San Francisco qui est assez marrant, c'est le Windows Store, un peu à la façon de l'Apple Store.
Ouais.
Donc, il n'y en a vraiment pas beaucoup, mais il y en a un dans le sud de la baie, il y en a un à San Francisco, puis il doit y en avoir quelques autres ici aux US. Et donc je pense que dès qu'ils auront les machines, encore une fois, ça prendra peut-être un petit peu de temps, mais dès qu'ils auront des machines disponibles en exposition, ouais, j'irai jeter un coup d'œil et
Ah,
puis
c'est
je vous
cool
ferai
ça,
un retour.
je suis très impatient. J'ai bien envie de voir ce que la concurrence fait et j'ai aussi envie de voir la réponse de Google à Microsoft. Ça va être amusant, je pense.
Ouais.
On va parler de.
Et
Ouais,
donc.
vas-y, je te laisse la main, pardon.
Je voulais pas te couper dans ta transition, mais exactement, on a parlé de Microsoft et on va continuer à parler de Microsoft. Et donc, on parlait des machines entre guillemets de configuration assez légère avec Cloud Shell. Et il y a un autre secteur sur lequel Microsoft sent une concurrence directe des Chromebooks, c'est le secteur de l'éducation. Je vois passer beaucoup de news de web site, de sites de news locaux qui annoncent que telle école. S'abonne, prend un, signe un accord avec tel constructeur de Chromebook pour équiper toutes les écoles ou tous les lycées du comté, parce que si on parle en comté, de Chromebook pour remplacer soit des iPads, soit pour remplacer des machines Windows. Et donc on sent vraiment que, enfin, on n'avait pas forcément besoin de vérifier ça, mais il y a clairement aujourd'hui une domination des Chromebooks ici aux États-Unis ou en tout cas en Amérique du Nord dans le secteur de l'éducation. Et Microsoft, là encore, se rend compte qu'ils sont en train de perdre des parts de marché et de se faire dépasser par Google. Et donc, ils ont lancé ce qu'ils appellent Intune
Oh, les
for
copieurs.
Education, qui est en fait.
C'est Apple qui leur a donné qui leur a
qui est en
soufflé le nom,
fait.
non?
Ouais, alors
Non.
c'est pas iTunes, c'est Intune. Mais c'est vrai qu'ils ont. Ouais, ils ont pas forcément aller chercher très très loin. Bon, il faut savoir que Intune, c'est une plateforme qui, a priori, existe depuis pas mal de temps et qui est la plateforme d'infogérance, en fait, de Microsoft. Ou en tout cas, infogérance, je ne sais pas si c'est le bon terme, mais de configuration à distance et de création et de management flotte pour
Ouais.
Microsoft. Donc, je ne vis pas forcément dans le monde Windows, mais les gens qui travaillent dans l'univers Windows et qui font de l'IT dans l'univers Windows savent probablement très bien de quoi je parle. Et donc là, ils sortent une version de Intune, mais dédiée au monde de l'éducation. Donc l'idée, c'est probablement de mettre ça entre les mains de personnes qui sont peut-être un tout petit peu moins, comment dire, habituées aux outils de configuration Microsoft ou de gestion de flotte, pour leur permettre de configurer d'un coup tous les ordinateurs d'une classe avec les bons droits d'accès, les bons droits d'utilisation, etc.,
Alors,
etc.
c'est une réponse au Chromebook parce que c'est hyper simple à paramétrer un Chromebook pour un gestionnaire de flotte. C'est quelque chose d'assez intuitif et assez rapide. Mais c'est la même chose. Là, moi, je suis pas très Mac, mais a priori, sur Mac, il y a déjà un système pareil qui est hyper simple à paramétrer. Donc là, dans la boîte où je travaille, ils ont voulu partir sur Apple et ils ont fourni des tablettes à je sais pas combien de personnes dans la société et tous sont pré-paramétrés d'un seul coup. Le gestionnaire, je l'ai vu faire, il a appuyé sur un bouton. En gros, tout était paramétré de la même façon, qui avait accès à l'appareil photo de sa tablette, des choses comme ça, ou les applications, ou les accès web. Et d'un seul coup, tous les liens internes à la société sont apparus sur tous les iPads d'un coup. Donc j'imagine que Microsoft veut pas laisser la part ni à Apple, comme tu le disais très bien, dans le haut de gamme, ni à Google dans le milieu bas de gamme. Ils avaient besoin de quelque chose comme ça, je pense. Enfin, sans ça, je ne sais pas comment ils auraient pu s'en sortir.
Ouais, je pense que. Après, ouais, c'est exactement ça. Après, je pense qu'il y avait probablement des outils qui devaient exister, que ce soit des outils proposés par comment est-ce qu'on appelle ça? Des éditeurs tiers, ou peut-être qu'il y avait même la possibilité d'utiliser iTunes, enfin Intune, pardon, la version de base dans le monde de l'éducation. Mais je pense que là, l'idée, c'est clairement de dire, attendez, au lieu d'utiliser quelque chose de compliqué et de vous farcir des outils qui sont essentiellement dédiés aux professionnels et au monde de l'entreprise, on vous a fait une version plus simple, plus rapide et qui vraiment se focalise sur vos usages à vous pour l'éducation, encore une fois, et pour configurer des machines qui vont aller dans les mains d'élèves et qui vont probablement être configurées par. Alors, je ne sais pas si c'est le principal de l'école qui va configurer les machines, probablement pas, mais en tout cas qui seront probablement configurées par des gens qui sont pas, qui font pas forcément ça au quotidien ou qui sont peut-être un petit peu moins à l'aise avec l'outil informatique que des gens qui font ça dans le monde de l'entreprise. C'est comme
Ouais,
ça que je l'ai.
j'imagine, parce qu'en ce moment, les Chromebooks, ce qui est intéressant, c'est qu'en fait, tu veux changer ta flotte, t'en as pour 5 minutes à tout reconfigurer. Alors que sur Windows, enfin, moi, je ne l'ai pas fait très longtemps, j'ai géré quelques flottes, mais pas énormes. Et c'était un peu juste la croix et la bannière au début, hein. C'était hyper complexe. Donc, t'évitais de changer ton appareil quand même, hein. Si tu pouvais le tenir 10 ans, tu faisais, hein. Bon, après, c'est très compliqué maintenant, mais. Donc ça, c'est bien. En fait, c'est une bonne nouvelle, finalement, tu vois, Chrome OS a du bon chez Microsoft.
Ouais, exactement. Faut croire que c'est le... c'est quelque chose de bon qui leur arrive, qui les oblige à réfléchir et à améliorer leur plateforme et la rendre meilleure. Donc non, globalement, c'est vrai que c'est aussi. Faut croire que Chrome OS est aussi une bonne chose chez Microsoft, comme tu le dis, ouais.
C'est cool ça, c'est cool. Alors là,
Donc voilà pour le point. Pardon,
vas-y,
excuse-moi,
vas-y,
j'arrête
juste,
pas de te couper dans tes
je
transitions.
voulais partir directement sur. Parce que moi, Microsoft, bon, bah, j'aime bien parce que j'ai fait mes premières armes dessus. J'aime bien parce que sans eux, on n'en serait peut-être pas là aujourd'hui avec nos Chromebooks, hein, parce qu'il faut relativiser les choses. Sans Microsoft, on n'aurait pas ce côté, ou peut-être pas encore, mais bientôt, aussi rapide avec l'interface de fenêtrage, le clic, la souris, tout ça. On ne l'aurait pas aujourd'hui, ça ne serait pas rentré dans les foyers de tout le monde. Et donc, finalement, sans eux, on n'en serait pas là. Comme sans Apple, sans les iPhones, on n'aurait pas d'autres smartphones de très haut de gamme comme on a aujourd'hui à des prix aussi abordables. Donc, merci Microsoft, continuez à travailler, qu'on prenne des bonnes idées, puis qu'on évolue encore sur Chromebook et Chrome OS, et qu'on soit encore plus performant pour la suite. Et sans eux, on ne pourra pas avancer parce que ça reste un acteur incontournable informatique dans le monde, quoi. Y a pas photo, quoi. Sans eux, c'est difficile d'avancer en ce moment.
Ouais, exactement. Mais ceci étant dit, c'est pas le Microsoft Show, c'est le CKB Show et on parle de Chromebook. Donc c'est la fin du point, c'est la fin du point Microsoft. Et du coup, donc la nouvelle, enfin la news suivante, c'est une news qui est pure Chrome OS. Il y a quelques temps, on a vu des gens qui s'excitaient un petit peu sur les sites dédiés à Chrome OS. En parlant d'un nouveau nom de code qui a fait son apparition dans le code source de Chromium, qui est public d'ailleurs. Donc il y a énormément de rumeurs et de news qui découlent du fait que certaines personnes ont passé du temps à lire les nouveaux changements du code source de Chrome, enfin de Chromium et de Chrome OS, et qui découvrent potentiellement de nouvelles applications ou de nouvelles fonctionnalités. Et donc celle-ci, a priori, c'est Poppy. Alors, quelle est l'idée de Poppy? En fait, c'est tout simplement le support potentiel d'un clavier détachable directement intégré
Oh,
à
c'est bien
Chrome
ça.
OS. Ouais, c'est assez génial. Donc, toi, tu utilises la Pixel C, tu l'as en face de
C'est
toi au
ça, ouais.
moment où
Moi,
on parle, c'est ça?
ça reste un des produits que je balade très facilement avec moi de par son poids. Puis comme avec le clavier, moi j'ai acheté le clavier en même temps, clavier détachable qui est juste génial. Ce qui fait que, alors moi j'ai un Chromebook avec charnière à 360 degrés qui se transforme en tablette, mais ça reste quand même lourd pour une tablette et encombrant. Alors que la Pixel C pour moi est beaucoup plus sympa. Je la détache et j'ai mon clavier à part. Si j'en ai pas besoin, je le prends pas, quoi. Donc ça, moi je l'utilise très souvent et c'est vraiment très bien.
Ouais, et c'est vrai que quand cette tablette est sortie, donc il y a
Ah,
maintenant
deux ans,
2 ans ou
trois
3 ans
ans, pas trois
peut-être?
ans quand
3
même,
ans?
elle est pas si vieille que ça, la pauvre.
2 ans?
Ouais, je crois.
Non. Mais c'est vrai qu'au début, les gens étaient un petit peu surpris parce que c'était pas forcément le genre de form factor, on va dire, qu'on trouvait à l'époque sur Android. Et même depuis, hein, finalement, c'est un peu resté un ovni, en fait. Il y a eu la Pixel C et puis il n'y a pas forcément eu énormément de devices comparables qui sont sortis depuis. Et je me rappelle à l'époque, beaucoup de gens avaient dit, tiens, c'est marrant qu'ils aient choisi Android pour faire ça, pourquoi est-ce qu'ils
Il
n'ont
y
pas
avait des
choisi
rumeurs
Chrome
d'ailleurs, hein,
OS?
que cette tablette serait un Chromebook en fait. Et
Et voilà, il y avait même des gens qui disaient, c'est ça exactement, qu'en fait ils avaient commencé à développer sous Chromebook et sous Chrome OS et qu'en fait ils s'étaient rendu compte en cours de route que c'était probablement plus simple de la sortir sur Android. Ce qui d'ailleurs me fait penser à une news qu'on abordera tout à l'heure, l'idée de commencer sous Chrome OS et de finalement se dire, ben non, finalement on
Ouais,
va la
ce serait
sortir
mieux.
sur Android, ce sera mieux. Mais c'est vrai que cette tablette-là, globalement, je pense que ça préfigure un petit peu ce que seront les Chromebooks dans les mois qui viennent, à mon avis, puisque ce nouveau profil Poppy, enfin ce nouveau nom de code Poppy, en fait, c'est l'idée de supporter ce qu'ils appellent le Detachable UI Configuration Option. Donc, dans Chrome, on va pouvoir supporter ou non supporter la possibilité de détacher
D'accord.
l'interface utilisateur en fait. Donc ce que ça veut dire concrètement, c'est est-ce que votre Chromebook est compatible, je peux détacher le clavier de l'écran ou pas. Sachant qu'aujourd'hui, c'est quelque chose qui n'existe pas à ma connaissance. Tous les Chromebooks on peut faire pivoter les charnières à 180 degrés et avoir le clavier de l'autre côté et puis l'écran, le clavier d'un côté et l'écran de l'autre. Mais
Pour
on
l'instant,
peut
oui, il n'y
pas
en a
vraiment les
pas.
séparer en
Pourtant,
fait.
il y a eu des prémices sous Android, hein, enfin, il y a quelques temps, je vous parle de ça, il y a, je sais pas, 5 ans à peu près, il y avait Asus qui avait sorti sous Android également, l'Asus Transformer, où en fait on détachait le clavier. Finalement, ça existe, et il ressemblait vraiment à un ordinateur, hein, c'était pas comme la Pixel, un clavier vraiment tout fin à côté, c'était quelque chose vraiment connecté physiquement. Là, typiquement, la Pixel, moi, mon clavier, il est aimanté, un peu comme le cover de l'iPad ou de la Surface Pro. En fait, c'est aimanté dessus. Et s'ils gardent ce concept-là, c'est génial, hein, franchement, moi, je kiffe. Hein, parce que forcément, avoir quelque chose de détachable, à un moment, il va falloir qu'ils se connectent entre eux, qu'ils arrivent à échanger des données, enfin des informations de l'un à l'autre. Et il faut bien trouver une connectique. Donc après, est-ce qu'on va les brancher en USB dessus ou en USB-C? Ou moi, typiquement, ma tablette avec le Pixel, c'est en Bluetooth les deux. Et ça, qui dit Bluetooth dit batterie, qui dit batterie dit recharge. Et ça, c'est la chose qui, moi, me fait un petit peu peur d'avoir l'obligation de recharger et mon clavier et mon écran. Enfin, ça va vite devenir une usine à gaz et je suis pas sûr que moi ça me plaise. Alors que le Pixel C, typiquement, grâce au système d'aimanté, il y a un système de comment on appelle la charge sans contact qui se fait. Donc, dès que je connecte mon clavier à ma tablette, il se charge aussi. Donc, j'espère qu'ils feront comme ça en fait.
Ouais, je pense que ce qui est bien, c'est que finalement il y a déjà un petit peu d'expérience sur ces questions-là. Il y a déjà des devices qui existent. Enfin, il y a suffisamment. Je pense que Google, même Google en tant que tel, a suffisamment de recul pour pouvoir utiliser les bonnes idées pour concevoir ce genre d'outils. Et puis bon, après, tous les fabricants de portables, à mon avis, ont aussi suffisamment d'expérience et l'habitude de concevoir ce genre de machine un peu hybride. Donc c'est très enthousiasmant et je suis vraiment curieux de voir. Le type d'appareils qui vont sortir dans les mois qui viennent. Je pense que le fait qu'ils ajoutent ce flag dans le code source, à mon avis, ça veut dire qu'il y a des machines sur lesquelles les constructeurs sont déjà en train de travailler à l'heure actuelle et il faut s'attendre probablement à voir des machines sortir dans les 3, 4, 5, 6 mois, Google I/O et dans 2, 3 mois maintenant. Donc je pense qu'il faut se préparer à voir ce genre de choses arriver avant l'été, à mon avis, en tout cas en
Ça
termes
va être
d'annonces.
sympa, ça concurrencerait justement, je parlais des surfaces de Microsoft, ça peut un petit peu aller dans ce sens-là finalement, parce que Chrome OS n'existe pas pour concurrencer, c'est que Android qui concurrence Microsoft Surface ou l'iPad. Donc si on peut en plus avoir Chrome OS, ça peut être sympa. Enfin moi je suis impatient de le voir quand même.
Ouais, ça va être, ça, à mon avis, ça va être assez génial
Dès qu'on
à
a des
voir
news, de toute
arriver.
façon, comme d'habitude, on essaie de vous faire le plus de retours via le blog ou un podcast. À ce moment-là, je pense que ça mériterait un podcast, hein.
Ouais, exactement. Donc là, on va changer un petit peu de sujet. On va parler d'un fabricant en particulier. C'est vrai que pour l'instant, on a parlé beaucoup de Microsoft. On a parlé un petit peu de l'OS. Et donc, je ne sais pas si vous vous rappelez, mais il y a quelque temps, on vous a parlé du Yogabook. Qui est fait par Lenovo. Et donc, pour ceux qui ne l'ont pas encore vu, franchement, allez jeter un coup d'œil. Il y a beaucoup d'appareils qui s'appellent Yoga chez Lenovo, mais là, on vous parle vraiment du Yogabook. Quand vous regardez un petit peu les images, ça fait vraiment futuriste, en fait, comme ordinateur. On a le clavier, en fait, est pas directement. c'est pas directement des touches, mais on a juste un panneau en fait sur lequel le clavier s'affiche en impression en fait. Et je pense que c'est une sorte d'écran finalement.
Ouais, ça a l'air d'être, enfin, ça a l'air d'être un écran puisque tu peux même le personnaliser d'après ce que j'ai compris, le
Ouais,
clavier.
voilà, c'est ça. Et au-delà de ça, on peut aussi l'utiliser comme tablette graphique. Donc c'est un écran, mais c'est aussi tactile, dans le sens où vous pouvez poser une feuille, dessiner avec votre feuille directement posée sur la dalle en fait qui fait office de clavier. Et donc vous allez dessiner sur votre feuille de papier et ça va le dessin que vous êtes en train de faire va être reproduit à l'écran. Donc bref, hein, c'est vraiment une machine assez innovante,
Exceptionnel.
assez ouais c'est ça, assez qui sort de l'ordinaire on va dire.
C'est futuriste, c'est 2023, c'est
C'est
enfin
exactement ça.
2223 ou je sais pas quoi, c'est un truc de dingue quoi. C'est Tom Cruise avec Minority Report
Ouais, c'est
quoi.
ça. C'est vraiment, vraiment futuriste. Et donc, il y a, je pense que c'était au cours du deuxième épisode, on vous en a parlé tout excité en vous disant que c'est génial, qu'aujourd'hui la version Microsoft est disponible, mais qu'il faut s'attendre très, très prochainement à voir cette machine-là arriver sous Chrome OS.
Alors, juste,
On en est
ouais,
sûr.
on était certain.
Et malheureusement, il s'avère que en fait, donc la version A12 du Yogabook a été annoncée et que malheureusement, elle n'est pas sous Chrome OS, mais elle est sous
Ah là là,
Android.
malheureux. Alors, on s'est trompé, je suis d'accord, hein, on s'excuse platement pour ceux qui avaient déjà commencé à mettre de l'argent de côté pour l'acheter. Mais c'est pas vraiment de notre faute, hein. C'est quand même juste le vice-président, directeur général Android et Chrome de Lenovo, Jeff Meredith, qui nous a annoncé via un tweet que ça sortirait sous Chrome OS. Quand même, on n'y est pas pour. Enfin, c'est pas vraiment notre faute quand même. On écoute le PDG quand même, le vice-président. Il a un peu peut-être avancé.
Peut-être que lui-même ne savait pas. Donc ouais, donc je pense que c'est assez intéressant d'ailleurs. Enfin, on en rigole, mais je pense que ça trahit à mon avis à l'intérieur de Lenovo une espèce de comment dire, de pas forcément de cafouillage, mais je pense que il y a quand même beaucoup de gens qui doutent de Chrome OS et ça prouve que Android reste un solide compétiteur pour tout ce qui est on va dire système d'exploitation pour machines. J'allais dire innovante. Ouais, disons pour système d'exploitation et qu'on peut assez facilement imaginer, donc comme pour la Pixel C dont on vient de parler à l'instant, que dans certains cas, et ben finalement avoir quelque chose qui ressemble à un laptop ou un peu hybride entre laptop et tablette peut aussi fonctionner sous Android. Et moi, très honnêtement, ce que j'ai l'impression, ce qui s'est passé, c'est que ils avaient probablement quelque chose de prêt pour Chrome OS, mais il y a peut-être des choses qui ont fait que soit c'était pas assez performant, soit c'était pas assez stable, et du coup c'était probablement plus facile pour eux de mettre ça de faire tourner ça sur Android, parce que je pense que c'est une machine qui va tourner sous ARM d'ailleurs, le A12, et du coup bah, Chrome OS sous ARM ça marche, c'est supporté, mais c'est quand même pas exactement la même chose que de faire tourner un système d'exploitation
Alors
sur un
moi j'ai
processeur Intel.
une pour moi ça fonctionne, enfin je suis persuadé qu'ils l'ont le produit Chrome OS, ils l'ont testé. Lenovo sait faire des Chromebooks, hein, ils en ont déjà fait quelques-uns. J'en ai un sous la main là, c'est quoi le N12 là je crois. Ouais c'est ça. C'est des bons petits appareils, hein. Moi je suis plutôt je trouve qu'ils se débrouillent plutôt bien. Après la finition est pas au top, ça reste du plastique, ça reste des choses comme ça, mais l'avenir des Chromebooks fait qu'on voit de plus en plus d'aluminium, de matériaux, on va dire, nobles dans les Chromebooks. Donc, je pense qu'ils vont s'arranger là-dessus. Enfin, après, c'est que mon point de vue. Donc, vous pourrez changer dans les commentaires de l'émission. Mais pour moi, je pense qu'ils sont plus axés sur Android pour juste une question d'appropriation par les utilisateurs. Android, il faut pas l'oublier, ça reste le navigateur numéro un au niveau enfin, mondial, au niveau des smartphones et des tablettes.
Le système d'exploitation, tu veux dire?
Ouais,
L'OS?
l'OS, ouais, le
Ouais.
système d'exploitation, ouais, pardon, il a écrasé la concurrence à partir du moment où ça arrivait sur le marché, ça a écrasé la concurrence. Donc oui, certains vont dire que Apple c'est meilleur, d'autres diront que c'est Android. Bon, les faits sont là, les chiffres sont là. Android écrase tout le monde pour le moment. Et est-ce qu'ils ont pas plutôt dit, tiens, on va faire de l'Android pour que ceux qui sont sur Android aujourd'hui, c'est 80. J'ai même plus les chiffres en tête, je crois que c'est plus de 80% de taux de pénétration de l'OS Android dans le monde. Est-ce qu'on ne va pas aller sur ce marché-là et vendre notre produit? Parce que les gens connaissent déjà le système d'exploitation, connaissent les logiciels, les applications, la manière d'utiliser l'appui long pour déplacer un icône, pour rajouter un dossier, des choses comme ça. Donc du coup, on va en vendre plus. Donc c'est cool, on va gagner plus d'argent. Moi, je pense plus que c'est dans ce sens-là plutôt qu'ils ne sont pas prêts. Après, c'est que mon point de vue. Mais moi, je serais PDG d'une entreprise, je sors sur Android
C'est
par défaut, même si je suis fan de Chrome OS, vous le savez tous. Mais si on me parle de à la fin de l'année, tu auras un chèque plus gros si tu veux, enfin si tu veux en plus, bah je vais aller sur Android forcément. Je suis pas Amazon non plus, hein, donc je pense que c'est comme ça. Je sais pas, je le sens bien comme ça.
possible. Ouais, c'est possible. C'est vrai que ça peut être de ce point de vue-là le choix qu'ils ont fait. Et juste, j'ai oublié de le préciser, donc le Yoga Book A12 est donc disponible essentiellement aux États-Unis d'ailleurs, je crois, pour l'instant.
Pour changer,
Pour
tiens.
changer, ouais. Mais juste pour insister quand même sur le prix, on parle d'une machine à 299 $ pour le modèle de base. Donc ça reste quand même assez abordable finalement pour quelque chose qui est oui, un ordinateur de très très bonne qualité, un ordinateur portable de très très bonne qualité qui fait tourner Android.
Ouais. Et je pense que même en import, s'il n'est pas vendu en France, même avec les taxes et compagnie, il va pas être très cher du coup. Hein. C'est pas un produit qui. Je pense qu'on pourra le faire venir en France assez facilement sans se ruiner.
Ouais.
Donc, et vu que le clavier n'est pas un vrai clavier, si on peut dire comme ça, on n'aura sûrement pas de difficulté à le passer en mode AZERTY.
Ouais, c'est une bonne question. Je sais pas exactement comment ça fonctionne,
Ouais.
mais c'est
Vu
possible,
que
ouais.
c'est un écran, je pense que ça doit être jouable. Ce serait quand même bizarre qu'ils aient créé un produit spécialement pour les États-Unis. Alors qu'ils ont la possibilité de couvrir la totalité des claviers mondiaux juste avec un switch entre le. Tu sais, comme on fait sur n'importe quel ordinateur, on peut passer en clavier BPO, en clavier AZERTY, en QWERTY. Je vois pas pourquoi on pourrait pas le faire sur celui-ci. Ce serait quand même dommage d'avoir oublié de faire ça.
Ouais. Et au passage, changer les touches qui sont affichées sur la dalle qui sert de clavier. Ouais.
C'est ça, ouais, ça changerait automatiquement. Ce serait génial, quoi. Enfin. J'imagine qu'ils y ont pensé. S'ils n'y ont pas pensé, mon CV, je peux vous l'envoyer. ouais, donc quand même, ça reste quand même une bonne nouvelle. Un produit pas cher sous Android et potentiellement sous Chrome OS. Alors, j'imagine que le vice-président, il ne s'est pas vraiment loupé. C'est juste qu'il s'est peut-être un peu précipité dans la chronologie des ventes des sorties de son Yoga Book, je pense.
Ouais, c'est assez, ouais. Pour le dire très franchement, ce serait pas complètement surprenant de voir ce type d'appareil annoncé sous Chrome OS dans les mois qui viennent. Je
Et
pense que,
ceci dit, même s'ils ne
vas-y.
le sortent pas, il y aura peut-être des fanatiques qui basculeront Chromium OS dessus ou quelque chose comme ça, puisqu'ils sont sur
C'est
ARM,
possible, ouais.
enfin c'est la même chose finalement. Je
Ouais, c'est
pense
vrai.
qu'on peut trouver quelque chose. On aurait bien fait tourner des applications Android sur Chromebook. Pourquoi on ne pourrait pas faire l'inverse?
Exactement, exactement.
Enfin, ça reste une bonne nouvelle.
Ça reste une bonne nouvelle, voilà, c'est ça. Donc pour l'instant, c'est pas encore sur Chrome OS, mais c'est à suivre. Pour parler de quelque chose qui est bien sous Chrome OS, là, il n'y a pas de question. On a appris il y a quelques semaines la fin du support. Donc ça ne veut pas complètement dire la mort, mais la fin du support du CR48,
C'est
qui est.
CR48, c'est l'équivalent de R2D2 ou enfin
C'est ouais, alors
c'était
c'est
en
vrai que
Star Wars qu'on trouve ça?
le nom est assez le nom est pas forcément le meilleur nom du point de vue marketing, mais il faut savoir que le CR48 en fait c'est tout simplement le premier Chromebook qui est sorti je crois que c'est il y a quelque chose comme 5 ans maintenant. Le premier appareil fabriqué par Google à l'époque qui faisait tourner Chrome OS. Et c'est vrai que c'était quelque chose d'assez assez étrange au début. C'était quelque chose qui était réservé aux employés Google pendant tout un moment. Je ne sais même pas exactement quelle a été la stratégie de commercialisation. Je ne sais pas comment est-ce qu'on pouvait
Bah,
l'acheter. Pour être très honnête, moi, j'en ai jamais vu en fait.
pareil, j'en ai jamais vu et je m'étais renseigné à l'époque et c'est vrai que j'arrivais pas à en trouver, enfin j'en ai pas trouvé à la vente. Hein. Et même des occasions, je n'ai pas trouvé. Si vous en trouvez un, ça peut être sympa. Je me l'achèterais bien pour mettre dans le musée de mes Chromebooks parce que peut-être que dans 10 ans, bah, j'aurai le musée des Chromebooks avec tous ceux que j'ai qui dorment chez moi. Ça va être sympa. Mais ouais, ce serait sympa de le voir. Après. Donc ouais, comme tu le disais, c'est la fin du support. Donc ça veut simplement dire que Google va plus pousser de mise à jour graphique, logiciel et compagnie. Par contre, il me semble, enfin, je suis sûr à 99%, que les mises à jour de sécurité seront toujours faites sur Chrome.
Ouais, alors je t'avoue que c'est pas tellement clair, mais ce qui se passe en général sous Android pendant tout un moment, c'est que ouais, ils continuent à mettre des patchs sécurité à disposition. Donc connaissant Google et donc le sérieux avec lequel ils prennent les patchs de sécurité et la stratégie qu'ils ont sous Android, c'est possible qu'ils fassent la même chose pour le CR48. Mais bon, soit dit en passant, c'est pas non plus forcément quelque chose qu'ils vont faire indéfiniment.
Ouais.
Donc voilà, ça sent quand même la fin doucement. Et puis bon, je suis curieux de voir les performances de l'appareil. Mais si vous avez un CR48 et que vous aimez les Chromebooks, bon, ça veut peut-être dire
De
qu'il est
passer
temps
à autre chose.
de passer à autre chose. 5 ans pour une machine de ce type-là, finalement, c'est pas si
C'est
mal
ça.
en termes de
Bon, et
durée
cela
de
dit, il sera
vie.
toujours utilisable en surf classique. Bon, certes, on va pas avoir le support Google Play, on va pas avoir les nouvelles mises à jour, mais il pourra toujours, enfin, on pourra toujours surfer hein, sans aucun problème. Utiliser ce qu'on utilise aujourd'hui, ça change rien finalement.
Ouais, sachant que s'il n'y a plus de patch sécurité, bon, c'est quand même
C'est
pas
pas
forcément
conseillé.
conseillé d'utiliser un appareil qui est pas à
Ouais.
jour du point de vue sécurité.
Mais c'est
Mais
pas
en
forcément une
pratique,
mise
ouais.
à la poubelle, c'est ça que je voulais dire. Au recyclage, pardon. Au recyclage, pas poubelle.
Ouais. Ah non, puis ça peut faire un très bon presse-papier après, une fois qu'il n'y a plus
c'est.
de
Bah, il était
patch
lourd, hein, donc ouais, tu veux. Si t'as un truc,
à
je sais pas, t'as pu te faire repasser, vu qu'il chauffait pas mal, apparemment, tu le poses sur ta chemise et tac, c'est nickel. Non, mais c'est
Voilà,
bien,
exactement.
ce n'est pas que des ordinateurs, c'est ça qui est génial. C'est un peu des couteaux
Peut
suisses.
l'utiliser pour plein d'autres
Des
choses.
multitâches. J'y penserai pour. J'en ai plusieurs, je vais tenter de faire ça. Tiens, je ferai un tuto pour comment repasser sa chemise avec un Chromebook. Ça peut peut-être marcher d'ailleurs. N'importe quoi.
Voilà, donc c'était la news pour le CR48. Donc du coup, là, on fait un peu des allers-retours entre le futur, le passé, le futur. Donc là, on va reparler du futur. Il y a une fonction qui a été, là encore, découverte par des gens qui s'amusent à regarder les commits et les changelogs de Chrome OS et de Chromium OS. Une nouvelle fonctionnalité qui a fait son apparition dans le code source du système d'exploitation qui s'appelle Quick Unlock. Et il semblerait que cette fonctionnalité soit en fait ni plus ni moins que la possibilité de faire un déverrouillage via empreinte digitale en fait.
Ça, c'est
Donc
génial.
voilà. Donc de la même façon que les utilisateurs comment ça
De
s'appelle,
smartphone?
d'Apple utilisent ID. Comment?
Tous les smartphones haut de gamme maintenant, hein. Il n'y a pas qu'Apple.
Voilà, c'est ça. Et puis Android a donc le fingerprint ID.
Ouais, c'est ça, ouais.
Ouais. Il semblerait qu'il y ait quelque chose de très 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 similaire en préparation sous Chrome OS. C'est plutôt cool parce que c'est quelque chose qui est aussi supporté maintenant sur les nouveaux MacBooks avec la Touch Bar. Donc je pense que c'est finalement une assez bonne chose de se dire que assez rapidement on serait capable de déverrouiller son ordinateur ou aussi de déverrouiller les paiements et de faire directement des paiements en ligne sans avoir à entrer son numéro de
Incroyable.
carte bancaire, mais juste en utilisant le déverrouillage par Touch ID. Je pense que c'est la promesse qui est faite par macOS sur les nouveaux MacBooks. Donc voilà, donc il y a des chances que ça arrive très très rapidement sous Chrome OS. Je pense que là, pour le coup, c'est vraiment dans les prochains mois. Si la fonctionnalité a été ajoutée au code source, faut s'attendre à. Il y a probablement des gens qui travaillent dessus à l'heure actuelle et il faut s'attendre à avoir des appareils sortir dans les mois qui viennent qui supportent ça.
Alors moi j'ai tenté, hein, j'ai essayé parce que j'ai lu de ci et de là sur Internet que la fonction existait sur le canal Canary de
D'accord.
Chrome OS. Et ça tombe bien, j'ai un Chromebook qui ne me sert à rien, donc il est forcément en canal Canary. Et j'ai également un capteur d'empreinte qui a 10 ans maintenant, donc. Et j'ai essayé, bon bah ça a rien donné pour moi, mais je pense que mon capteur d'empreinte est défectueux.
D'accord.
Mais il est déjà dessus et la fonction, j'ai pas fait de capture d'écran bêtement, je sais pas pourquoi j'ai pas fait ça, mais la fonction en fait apparaît dans les paramètres de Chrome OS quand on est sur le canal Canary de Chrome OS. Donc je pense que c'est très très dans les prochaines versions développeurs de Chrome OS, je pense qu'on va le voir arriver assez rapidement. Et a priori, on peut utiliser. Alors pour l'instant, les Chromebooks n'ont pas de capteur d'empreinte embarqué. Ça va venir, j'imagine, avec cette nouveauté. Enfin, en tout cas, Google veut pousser ce système-là, je pense. Et dans ce que j'ai lu dans les commits, alors j'ai pas su traduire commit. J'arrive pas à dire ce que ça veut dire en français. C'est
Bah, c'est le terme
enfin
qu'on utilise même en français, c'est le terme que j'utilise.
ouais c'est ça ouais il y a pas de ok bon bah
Parce
c'est
qu'il n'y a pas
normal que j'ai
de.
pas trouvé mais on peut dire que dans les commits on peut rajouter simplement le capteur d'empreinte en USB et qu'il serait pris en charge. Donc c'est pour ça que je me suis empressé de
D'accord.
tester. Bon bah moi j'ai pas eu la chance de voir fonctionner l'appareil mais je suis assez impatient de voir ça. Moi j'utilise déjà au quotidien sur mes smartphones. J'ai plusieurs smartphones qui me permettent de verrouiller l'appareil forcément. Mais j'aimerais bien voir ce que Google va faire si ça mémorise par exemple les mots de passe. Tu vois, tu es sur un forum, tu as un mot de passe sécurisé à 300 000 caractères. Hop, tu poses ton empreinte, bof, elle est reconnue et c'est réglé quoi. C'est la fin du mot de passe en fait en soi. Donc je trouve ça plutôt. Je suis curieux de voir ça aussi. Je suis très curieux aujourd'hui. Et je suis curieux de le voir fonctionner et me dire, tiens, bah ça y est, j'ai plus besoin de me mémoriser tous ces mots de passe. Alors il existe des applications, des extensions sur Chrome OS, enfin sur tous les OS, qui mémorisent vos mots de passe, mais l'empreinte, on l'a toujours sur soi, à moins de se couper le doigt, mais on l'a toujours sur soi. Et moi je trouve ça bien.
Ouais, c'est quelque chose d'assez, à mon avis, qui va nous rendre la vie encore un peu plus simple.
Ouais, on peut même imaginer, toi, tu passes ton doigt, il n'y a plus de profil, les profils d'utilisateur. Tu passes ton doigt, tac, tu arrives directement sur le profil d'utilisateur, tu n'as même pas besoin de cliquer dessus, il te reconnaît automatiquement. Tu passes d'une session à une autre, enfin, on peut imaginer beaucoup de choses, le paiement, comme tu disais, les accès à tous les sites web, je sais pas moi. Après, pourquoi pas un capteur biométrique, tu poses ton doigt, il va te dire si tu as du diabète, enfin, ça peut aller loin, ça peut aller loin, puisque une fois qu'on a le capteur d'empreinte possible, on peut peut-être aller plus loin encore.
Ouais,
Enfin, moi je
exactement.
suis content, moi ça me fait plaisir de voir évoluer Chrome OS comme ça. Et après, certains vont nous dire, ah ouais, mais ça va encore augmenter les prix des Chromebooks, quoi. C'est dommage, mais.
Ouais, c'est vrai que après, c'est pas forcément le fait que ce soit aussi présent maintenant sur les ordinateurs, sur les téléphones, les smartphones. À mon avis, ça contribue énormément à baisser le prix et je pense que bah, ce sera intéressant à suivre, mais je ne suis pas complètement certain que ça augmente de façon dramatique le prix d'un Chromebook. Entre avoir un Chromebook avec ou sans capteur d'empreinte, je ne pense pas que ça se. Ou peut-être pas au début, mais en tout cas sur le long terme, je ne pense pas que ça impacte énormément le prix des appareils.
Pense pas non plus parce qu'on voit maintenant tous les Chromebooks, enfin tous les nouveaux Chromebooks sont tactiles et le prix n'a pas explosé quoi, il n'est pas devenu
Ouais,
impossible
exactement.
à acheter. Certains, on va en parler dans peu de temps, ont stylet intégré, ça n'a pas foncièrement augmenté le tarif. Alors forcément, si on l'achète le jour J, il est plus cher que dans 3 mois. Mais
Ouais.
c'est comme tout, quand on veut la nouveauté tout de suite sans attendre, on achète un peu plus cher. Je pense que pour rassurer ceux qui vont me dire ça, parce que j'en connais qui nous suivent et qui me disent à chaque fois, ouais, tu nous parles d'un nouveau Chromebook, on va encore débourser, on va encore perdre un bras pour l'acheter. Enfin, alors que c'est foncièrement jamais le cas. Enfin, quand on parle d'un Chromebook, on parle de 500 euros maximum ou un truc comme ça. C'est pas, faut voir la capacité du produit, la possibilité avec ces produits au quotidien. Enfin, moi, je trouve ça très intéressant et pas forcément très cher. Enfin, voilà, on verra de toute façon. L'avenir nous le dira dans très peu de temps, puisque ça apparaît déjà dans le canal Canary.
Ouais, donc on parlait à l'instant d'ordinateurs à 500 euros maximum. Donc là, je vais vous parler de mon dernier investissement. Donc j'ai cassé ma tirelire la semaine dernière et je me suis acheté le Samsung Chromebook Plus.
Ah la chance.
Euh, donc
Tu as
euh,
déjà pu l'acheter toi. Moi je peux même pas casser ma tirelire, je peux pas l'acheter.
voilà, c'est ça. J'ai la chance de pouvoir casser ma tirelire pour l'acheter.
C'est énorme.
Donc, déjà un petit rappel. Donc, le Samsung Chromebook Plus, on vous en parle depuis le début qu'on a commencé ce podcast. C'est vraiment l'ordinateur qui est le Chromebook le plus haut de gamme qu'on puisse trouver aujourd'hui, on va dire. Il y a maintenant 3 ans, Google avait lancé le Pixel, qui était un peu un ovni dans le sens où c'était une machine qui était très très chère. Qui avait un très très bon écran, des specs au top, mais qui ne faisait tourner que à l'époque Chrome OS. Et c'est vrai que les gens avaient dit quoi, payer 1 000 $ pour une machine qui fait tourner un navigateur internet, c'est quand même un peu dur à avaler. Bon, le temps a passé et c'est vrai qu'aujourd'hui Chrome OS ressemble de plus en plus à un vrai système d'exploitation qui permet de faire la plupart des choses que vous avez besoin de faire. Sur un ordinateur. Mais c'est vrai que on va dire que les Chromebooks haut de gamme étaient un petit peu orphelins et il n'y avait jamais vraiment eu un ordinateur qui pouvait, une machine lancée qui pouvait prétendre reprendre le flambeau du Chromebook haut de gamme. Et donc quand Samsung a annoncé cet appareil donc, dans le courant de l'automne, c'est vrai que bah, beaucoup de gens, y compris nous, ont été assez excités à l'idée de voir cette machine débarquer, mais Samsung avait été assez, comment dire, ils avaient presque donné aucune information finalement. Ils avaient mis une vidéo en ligne sur leur compte YouTube et ils avaient laissé les rumeurs aller bon train sans forcément donner de date, sans forcément de date de lancement, sans forcément donner de prix de lancement, sans forcément donner énormément d'informations au sujet des specs. Et c'est vrai
Bah,
que
super bon teasing en fait,
voilà.
façon film hollywoodien qui te balance deux trois infos par-ci par-là. Non, mais c'était ça en
Ouais, c'est
fait.
ça.
Moi j'ai trouvé ça sympa, un peu frustrant mais
Un peu
sympa.
frustrant mais sympa. Je pense que bon, à l'époque, ils avaient aussi peut-être un petit peu autre chose à penser, parce que c'était l'époque du fameux feuilleton du Galaxy Note. Et il y a des gens d'ailleurs qui disent qu'en fait, ils ont été obligés de retourner à la planche à dessin et de refaire des tests et de refaire des changements sur le Chromebook Plus parce qu'ils avaient peur qu'il y ait aussi un problème de batterie au lancement. Alors ça, j'ai aucun moyen de vérifier, je ne sais pas si c'est vrai, mais c'est vrai que finalement, ils ont sorti cette vidéo et puis ils n'ont pas forcément donné énormément d'informations. Et puis au moment du CES, donc le CES, c'est le Consumer Electronic Show, qui est le salon de l'informatique grand public, là pour le coup, enfin de l'électronique grand public, ici aux États-Unis tous les ans. Là, pour le coup, ils ont amené la machine, ils ont laissé les journalistes jouer avec et ils ont fait des annonces concernant le prix et concernant la date de lancement. Et donc, on parle d'une machine qui fait. Alors, c'est du 2000, 2400 par 1600 pixels. Donc, c'est un écran de très, très, très bonne qualité, très, très, très fin. Il fait un tout petit peu plus d'un kilo. Donc, c'est.
Je crois que si je me trompe pas, mais il me semble que c'est le plus léger des Chromebooks
C'est vrai.
de cette gamme-là. Hein. Enfin, on parle bien de la
Ouais.
même gamme, on comparant pas un plastique et
D'accord.
ce produit-là, mais il me semble que c'est le plus léger des Chromebooks. Je revérifierai, mais j'ai regardé pas mal de specs et il paraît hyper léger et surtout hyper fin.
Ouais, donc c'est ça aussi qui m'a c'est ça qui m'a surpris finalement en le sortant de la boîte, c'est de voir à quel point il était fin quoi. C'est un peu plus épais qu'une tablette, mais finalement c'est difficile d'imaginer quelque chose qui soit beaucoup plus fin finalement. Avoir quelque chose de plus fin, ce serait presque, ça voudrait presque dire que ce serait trop fragile ou pas assez ergonomique. Donc c'est à ce point-là, finalement, ça n'ajouterait pas forcément grand-chose d'avoir quelque chose de plus fin que ce qu'on a à l'heure actuelle.
Et justement avec ses 12 pouces, il n'est pas un peu flexible, enfin c'est pas un peu risqué. Ouais, justement, c'est une bonne interrogation en soi, mais l'écran il plie pas trop facilement.
Bah écoute, ouais, j'ai pas testé, je me suis pas assis dessus pour voir si l'écran
Oui,
résistait,
j'imagine.
s'il pliait. Mais non, globalement, ça a l'air. Alors bon, c'est un ordinateur assez fin, donc on essaye de. On se doute que c'est fragile et on essaie d'en prendre soin. Mais globalement, non, il a l'air assez. Pas forcément plus fragile
D'accord.
que n'importe quel autre ordinateur de ce type-là. Et donc, ouais, donc, comme je disais, il est aussi vendu avec un stylet. Alors là, on sent la patte de Samsung qui met des stylets un peu partout. J'avoue que pour être très honnête, le stylet, je l'ai sorti deux fois depuis que j'ai l'appareil. Et à chaque fois, c'était pour le montrer à ma copine et pour jouer avec, pour montrer qu'on pouvait dessiner des choses dessus. Mais j'avoue qu'en termes d'usage, je cherche encore un petit peu. Je pense que assez rapidement, il va y avoir Adobe et tous les gens qui font des logiciels d'édition photo et d'édition graphique qui vont s'intéresser à la plateforme. Et donc, du coup, dans ce contexte-là, peut-être que les gens qui font du design ou du graphisme trouveront un intérêt à avoir un stylet directement intégré à l'appareil. Mais moi, j'avoue que personnellement, ce n'est pas forcément quelque chose qui va beaucoup me servir a priori.
Et vu que tu as joué un petit peu avec, il est précis parce que ça c'est toujours la question, le stylet sur un ordinateur. On se demande toujours si c'est précis, si quand tu appuies, il n'y a pas un décalage, tu écris à une certaine hauteur. Et en fait, toi, tu poses ton stylet à une certaine hauteur de ton écran et c'est décalé de quelques millimètres au-dessus, en dessous, sur le côté. Est-ce que ça, tu t'en es rendu, enfin, t'as pu le constater ou en fait, tu poses ton stylet et à l'endroit où tu l'as posé, ton trait se fait aussitôt.
Non, globalement, c'est très très bien fait, ça marche bien, c'est assez précis. Mais je t'avouerai qu'encore une fois, l'usage que j'en ai est peut-être un tout petit peu trop limité pour vraiment être capable de faire la différence en fait entre un bon stylet. Quelle est la différence entre un bon stylet et un mauvais stylet? J'avoue que à mon niveau, je fais plus forcément tellement la différence. Mais je pense qu'il y a des graphistes qui sont capables de te dire qu'il y a des stylets qui marchent mieux que d'autres.
C'est une question qu'on me pose souvent quand je parle de stylet. Parce que je m'en suis fait fournir plusieurs pour les Chromebooks tactiles. Et c'est vrai que je suis pas spécialiste non plus, mais on voit le décalage du 13. Ça suit pas forcément l'écriture
D'accord.
rapidement. Si tu écris trop vite, enfin, je sais pas si on peut dire que ça lag, mais l'affichage est toujours en décalage. Moi, j'ai toujours l'impression que la feuille est trop petite. J'arrive pas à écrire complètement sur mon écran comme si j'écrivais sur une feuille. J'ai l'impression qu'il manque de place en fait. Je sais pas si c'est moi qui suis naze avec un stylet. Bon, j'avoue que je pense que oui, mais j'ai toujours un peu de mal avec les stylets. J'avais le Note 7 avant qu'il explose. Non, moi chez moi, il n'a pas explosé, hein, je vous rassure. J'avais le Note 7, j'ai eu toute la gamme Note, et en fait, je me suis servi du stylet comme toi, 4 fois. J'ai dessiné Toto une fois, j'ai utilisé une application de dessin pour colorier, j'ai filé ça. Voilà, enfin, pour moi, c'est très gadget, mais j'imagine qu'un photographe qui veut faire de la retouche de photo, au lieu d'avoir une tablette graphique, avoir ça peut être super sympa. Enfin, tu balade qu'un produit. Moi, pareil, encore une fois, je suis curieux de le tester. Bon, je suis pas prêt de le tester, même si on a lancé une pétition. D'ailleurs, allez la signer. Je veux un Chromebook Plus et un Chromebook Pro en France. Donc, on est 160 à l'avoir signé pour l'instant. Continuons. Je vous mettrai le lien d'ailleurs dans les notes de l'émission pour que vous continuiez à dire j'en veux un. Nous aussi, Samsung, on en veut en Europe. Voilà, c'était une aparté,
Ouais,
désolé.
non, et je pense que c'est vrai que c'est assez bizarre. Pour l'instant, ils n'ont pas été très très clairs sur leur plan de commercialisation en dehors des États-Unis, il me semble. Mais je sais d'ailleurs que j'ai vu des rumeurs de façon assez plutôt par hasard qui a priori
Super.
devraient être assez rapidement disponibles en Malaisie. Donc il n'y a pas
Je
donc
suis
voilà,
super
donc tu
content que
te
tu
dis
m'annonces ça. Enfin, franchement, je vais aller en Malaisie l'acheter.
Tu vois, s'il est en Malaisie, je veux dire, il n'y a pas de raison qu'à un moment donné, il ne vienne
Ouais,
pas
je
en
comprendrais
France,
pas.
ou
Ouais, enfin.
peut-être, hein, j'en sais rien. Mais tout ça pour dire qu'il y a quand même des chances pour que ce soit un hit et que l'appareil se retrouve en vente un peu partout, y compris en Europe. Et d'ailleurs, pour la blague, même ici, hein, il est très difficile à avoir. Je me suis pointé au Best Buy, qui est l'équivalent de boulanger ici, pour l'acheter. Et ils m'ont dit qu'ils en avaient reçu un. Et qu'il avait été vendu dans les 2 heures dans lequel en gros, ils en ont reçu deux. Ils en ont reçu un pour le mettre en modèle de présentation et un autre pour le vendre. Donc, le modèle qui était en vente a été vendu dans les 2 heures. Donc, c'est là où je leur ai dit, bah ouais, les gars, fallait peut-être prévoir le stock parce que c'est évident qu'un appareil comme ça, surtout ici, il y a quand même de grandes chances pour qu'il y ait des gens qui s'y intéressent et que ça s'achète assez rapidement. Donc, je suis assez confiant dans l'idée que Samsung va mettre le paquet et essayer de le lancer ailleurs qu'aux
En
États-Unis.
tout cas, moi, je pense qu'ils vont le faire. Il faut pas oublier que c'est quand même eux qui, en France, ont lancé le premier Chromebook. Hein. Moi, je suis arrivé sur
Ouais.
Chromebook grâce à Samsung, hein, avec le série 3, qui était plutôt sympathique. Quand je l'ai ouvert, j'avais même cru que c'était un faux. Ouais, tellement
Ouais.
c'était léger. Enfin, c'était impressionnant la première fois. Ça m'a vraiment surpris la première fois. Donc, je pense que Samsung va le faire. En tout cas, n'hésitez pas quand même, signez. Hein, je réinsiste un peu dessus. Moi, je vais les harceler. Je vais demander à tous ceux qui ont une connexion avec Samsung de près ou de loin de les harceler aussi. À un moment, ils vont craquer.
Ouais, ça va arriver. Et d'ailleurs, au passage, c'est aussi, pour faire un petit peu d'histoire, c'est aussi Samsung qui a lancé le premier téléphone Android en France, si je me rappelle bien. Et c'était le Galaxy premier du nom, et à l'époque, il était disponible en Corée et en France. Donc tu vois, enfin, y a quand même un certain nombre de choses qui nous laissent penser, un faisceau de preuves qui peuvent nous laisser être confiants
Ouais.
en fait que.
On va l'avoir, rassurez-vous.
Donc voilà, donc c'était mon test rapide. Donc là, j'ai parlé des choses que j'aime bien. Donc il est fin, il est rapide, il est puissant, l'écran est d'extrêmement bonne qualité. Le stylet sert un petit peu à rien, mais finalement, c'est pas très très grave.
Dommage.
mais alors, pour ce qui est des trucs que j'aime pas, bon, pour l'instant, il n'y a pas grand-chose. Mais j'ai quand même noté par moment des petits lags au niveau du clavier, pas du clavier physique, mais du clavier tactile. Donc des fois, quand on passe en mode tablette, la transition se fait pas trop trop mal, mais bon, on va dire une fois sur 10 ou une fois sur 20, des fois le clavier va prendre une demi-seconde à réagir quand on appuie sur les touches, et puis après, une fois que le truc est parti, c'est bon, il n'y a, y a plus de problème. Donc voilà, donc il y a des petits trucs comme ça qui font que le touchpad aussi, enfin le trackpad pareil, est par moment un tout petit peu, met un tout petit peu de temps à s'enclencher en fait. C'est pas qu'il prend du temps à réagir, c'est juste que quand on l'ouvre et qu'on démarre, pendant une seconde ou une demi-seconde, il va rien se passer et puis après ça va se mettre à marcher. Donc bon, c'est pas génial, mais je pense que c'est des choses qui vont probablement être réglées avec les nouvelles versions de Chrome OS.
Et au niveau du trackpad, c'est souvent un reproche qu'on peut faire au Chromebook, ça fait assez cheap. Tu sais, t'appuies dessus, ça fait un bruit un peu plastique, un peu. Et ce qu'en a pas Apple, par exemple, où ils ont même travaillé sur le son du clic du trackpad. Est-ce que ça fait ce clic plastique, enfin un peu jouet, un peu bas de gamme ou pas sur le tien?
Ouais, d'ailleurs, pour parler du trackpad de Mac juste pour une seconde, en fait, il clique même plus maintenant. En fait,
Ouais, il clique même
c'est
plus, ouais.
comment est-ce qu'on appelle ça, l'espèce de retour haptique qu'ils ont embarqué à l'intérieur qui donne l'impression que ça clique, mais en fait, ça clique même plus. Bah, pour ce qui est de celui-ci, ouais, globalement, c'est très très comparable en fait au trackpad de Mac. On peut taper, on peut cliquer, le scroll à, enfin les gestures à deux doigts, trois doigts et tout ça, ça marche pas trop mal. Donc globalement, c'est assez comparable. Il est juste, je dirais, un tout petit peu au-dessous du trackpad de Mac. Mais bon, on parle de machines qui valent, en gros, c'est du simple au triple ou du simple au quadruple.
Ouais,
Donc
c'est tu l'as
finalement,
payé
c'est.
combien? C'est quoi, 450, tu l'as payé?
Ici, ouais, il est en vente à 450 $ et avec les taxes, parce qu'on paye beaucoup de taxes en Californie, je l'ai payé 500, un tout petit peu moins de 500 $. Donc
D'accord.
tu vois, c'est quand même assez abordable, même si on parle ici du Chromebook probablement le plus cher en vente à l'heure actuelle.
Oui, et le plus haut de gamme aussi, hein, donc 500 dollars
Et voilà.
pour le produit le plus haut de gamme, c'est quand même, enfin. Faut être réaliste, et même chez Microsoft, si on prend un produit haut de gamme, ça coûte pas ce prix-là. Hein. Donc, sans parler d'Apple, ils sont pas mal. Donc, bien, alors du coup, content de ton achat.
Voilà, et un autre truc que j'oubliais de signaler pour parler des trucs qui sont pas tip-top, c'est que malheureusement le clavier n'est pas rétroéclairé. Et ça, c'est vrai que c'est un truc qui, quand j'entendais ça il y a quelques années, ça me faisait un peu rigoler. Je me disais, mais pourquoi est-ce que les gens se plaignent de pas avoir le clavier rétroéclairé? Et depuis quelques années, je m'y suis habitué. Et pour la première fois, avoir un ordinateur qui a pas de clavier rétroéclairé, c'est vrai que ça manque un petit peu. Mais
Sur le
bon,
pixel, il
c'est
était
pas.
rétroéclairé? Ah
Sur le
ouais, ok.
pixel, il était rétro.
Ah si.
Oui, alors attends, est-ce qu'il était rétroéclairé? Oui, il était rétroéclairé.
Ah
Ouais,
ouais, c'est dommage parce que c'est super sympa. Tu l'utilises dans une pénombre, c'est quand même plutôt sympa d'avoir son clavier. Enfin bon, c'est étonnant qu'ils aient passé sur ça parce que c'est pas non plus quelque chose de très cher à produire, j'imagine. Hein, une petite loupiote grosso.
ouais, mais c'est vrai qu'il est très très fin. Donc,
Ouais.
du coup, tu vois, peut-être que c'était quelque chose à sacrifier pour avoir un peu plus d'autonomie ou je sais pas exactement.
D'ailleurs, en
Mais
autonomie,
donc voilà.
je l'ai vu, une batterie assez intéressante, 4240 mAh. Si tu me disais, c'est à peu près 8 heures, 8 heures et demie. Est-ce que tu as déjà essayé de ne pas charger, enfin de l'utiliser 8 heures et demie?
Alors, j'ai jamais utilisé non-stop pendant 8 h 30, parce qu'en général, au boulot, j'utilise mon Mac. Et puis le soir, quand je rentre, je dors. Donc, j'ai pas encore eu l'occasion de passer 8 h 30 devant le Chromebook.
Ouais.
Mais j'avoue que
Tu l'as chargé
ça
combien
pourrait
de fois
valoir le
depuis que
coup
tu l'as
d'essayer.
récupéré?
Je l'ai chargé 2 fois
Ah, c'est pas mal, 2 fois en une semaine.
en l'espace d'une semaine.
C'est pas mal. Moi, je prends.
Donc voilà. Ouais.
Hein. J'ai vu des tests. Tu m'as dit que tu les avais pas encore faits, mais juste pour en parler un petit peu, parce qu'on va m'en parler. Les tests Octane. Alors, pour ceux qui connaissent pas ce qu'est Octane, j'arrivais pas à trouver le nom d'un logiciel sur Microsoft ou Apple. En fait, c'est un logiciel, enfin, c'est une application, enfin, un site web qui teste la vélocité, la puissance, c'est ça, on peut dire comme ça, la puissance de l'appareil. Tu es d'accord avec moi, c'est à peu près ça, hein, si on devait le.
Ouais,
Et
c'est
c'est
ça.
donc en fait.
Ou les
Ouais, les performances,
performances.
merci, c'est ce que je cherchais. Et Octane, enfin, d'après les retours, tu pourras nous en faire un peut-être toi, que je mettrai dans les notes. A priori, il tournerait autour de 9400. En points, donc 9400, ça met la barre très haut parce qu'il n'y en a que deux ou trois qui passent au-dessus. Donc, ce qui est plutôt intéressant, surtout quand on connaît ce qu'il y a à l'intérieur du Samsung Chromebook Plus, et c'est peut-être ça que tu vas nous dire juste après, je crois.
Ouais, voilà, donc pour faire une petite transition,
De rien,
merci Nico. C'est vrai que j'ai pas J'ai pas insisté là-dessus, mais y a un truc aussi assez intéressant qui s'est passé quand l'appareil est sorti, c'est que Google en fait a mis en ligne un site en fait qui s'appelle Made with OP1 ou quelque chose comme
C'est
ça.
ça, ouais, exact, ouais.
Et
Ou what is OP1, je
What is
crois.
OP1, ouais, c'est ça. Et c'est vrai qu'il y a beaucoup de gens qui se disaient, tiens, c'est bizarre, c'est quoi ce site qui a priori appartient à Google. Et donc c'est le site qui ni plus ni moins présente donc OP1 ou OP1 en français, qui est une configuration matérielle ou même plus qu'une configuration matérielle, un chipset en fait, qui a été développé par Google pour les Chromebooks. En essayant de ne pas être trop technique, l'idée c'est que Google en fait a développé une configuration. C'est pas exactement comment est-ce qu'on appelle ça, une puce informatique, mais c'est plus une configuration de puce
Ouais.
informatique, je dirais, qui permet donc qui est basée sur ARM,
Ouais, toujours,
si
ouais.
j'ai bien compris. Donc ARM qui est ouais voilà ARM donc qui est on vous en parle souvent ici, c'est la puce électronique privilégiée pour les smartphones. Tu peux pas savoir à quel point je lutte là pour essayer de bloquer tous les anglicismes qui me viennent en tête à chaque fois que je parle.
Ouais, on comprend maintenant, on est habitué. Au pire, je te reprendrai si je comprends rien, t'inquiète.
C'est pour expliquer. Ouais, c'est juste pour expliquer le temps de latence. Je bug un petit peu, mais c'est parce que j'essaie vraiment de trouver le nom français à chaque fois. Donc voilà, donc le OP1, c'est ça. Donc c'est une configuration, en gros, pour la faire simple, c'est une configuration matérielle qui va permettre d'avoir un cœur matériel dédié au Chromebook. Et c'est très très.
Mais ça, c'est juste
Ben ouais,
énorme.
c'est ça, c'est très très intéressant parce qu'en fait, Google va un petit peu à la façon d'Apple. Hein. On disait qu'Apple, pendant tout un moment, était très fort sur les iPhones et même sur les Mac parce qu'ils contrôlaient à la fois le logiciel et le matériel. Et ben on sent que Google est un peu en train d'essayer d'avoir cette approche-là sur les Chromebooks en disant voilà, nous, on a une configuration matérielle qui, on le sait, marche très bien, qu'on utilise pour développer le système. Donc voilà, Lenovo, Samsung. Acer, Asus, tous les gens qui font des Chromebooks, on vous la donne et basez vos Chromebooks sur cette configuration matérielle et ça vous garantira des meilleures performances et un meilleur support du système d'exploitation à venir.
C'est plutôt bien. Donc c'est pas eux qui le fabriquent, comme tu disais, c'est Rockchip qui fabrique, qui le développe, enfin qui le, non, qui le fabrique. Bon, il développe pas, il fabrique. Donc c'est pas un inconnu non plus.
Ouais, exactement. Ouais, c'est intéressant. Alors, Rockchip, c'est il y a en gros deux fabricants de processeurs ARM aujourd'hui qui sont très très utilisés dans les appareils Android, les smartphones Android. C'est MediaTek et Rockchip. Donc, c'est on va dire dans les appareils bas de gamme, on retrouve souvent du MediaTek et du Rockchip. Ce qui est assez intéressant, c'est que comme dans l'électronique et l'informatique en général, on constate que le bas de gamme rapidement devient du milieu de gamme et finit par devenir du haut de gamme. Enfin, c'est un peu ce qui s'est passé avec les fabricants coréens qui étaient en concurrence avec les fabricants japonais. Et donc là, maintenant, les fabricants chinois qui rentrent en concurrence avec les fabricants coréens. Donc Rockchip, qui était assez. Pas forcément, qui n'avait pas forcément bonne presse, on va dire, ou pas forcément, qui n'était pas considéré comme du très très haut de gamme, a fait ce processeur OP1 pour Samsung, pour leur Chromebook haut de gamme. Donc c'est assez intéressant quand on y pense un petit peu.
Ouais, puisqu'ils auraient très bien pu mettre du Intel dedans. D'ailleurs, ils le font dans le Pro, c'est ça, dans le Chromebook Pro, dans le Samsung Chromebook Pro, je crois que c'est de
Ouais,
l'Intel
voilà, c'est
dedans.
ça. Donc là, le plus, c'est censé être une machine un tout petit peu plus abordable et un tout petit peu moins puissante que le Chromebook Pro qui va arriver, je me demande s'il n'est pas déjà arrivé ou s'il va arriver dans les semaines qui viennent, qui est...
Ouais, il l'annonçait quelque peu après, mais enfin, je t'avouerai que du coup, j'ai pas regardé parce que j'ai déjà pas le premier, alors pour avoir le deuxième.
Ouais, c'est ça. C'est un peu le grand frère de la version que j'utilise à l'heure actuelle qui est censée être un peu plus puissante et un peu plus performante.
Alors c'est le même. Ce qu'il faut voir, c'est que le Samsung Chromebook Plus et le Chromebook Pro sont les mêmes produits. C'est juste le chipset qui change. C'est juste tout le reste est ISO. Hein, c'est exactement le même produit. Hein.
Exactement, ouais,
Donc il
exactement.
est plus cher
Donc
parce que c'est de l'Intel.
voilà, c'est ça. Et il est aussi plus puissant.
Oui.
Enfin,
Oui.
c'est Intel et donc c'est un
Un
petit peu
peu
plus
plus
puissant en
puissant, oui.
termes de configuration. Ouais. Et c'est plus une architecture ARM comme c'est le cas du OP1.
Ouais.
Mais ça va être assez intéressant de voir un petit peu. Donc un truc de plus à suivre de près. Maintenant, on a aussi une configuration matérielle un tout petit peu plus encadrée du côté des Chromebooks qui est bah, très très performante et qui est aussi très très abordable ou globalement assez abordable ou compétitive, on va dire. C'est peut-être plus approprié.
Compétitive, ouais, c'est bien,
Ouais.
ouais.
Donc je suis curieux de voir un petit peu comment les choses vont évoluer, mais on sent que les choses s'organisent entre Google et les fabricants de Chromebook. Donc encore une fois, beaucoup beaucoup de raisons de se réjouir avec cette nouvelle année qui commence pour les Chromebooks.
Bonne nouvelle encore. Encore de l'impatience. Encore de la curiosité qui s'annonce. Tu voulais nous parler aussi des laptops, c'est ça?
Ouais, donc dans la foulée de Made with OP1, donc le site qui a été sorti par Google, il y a un article de The Verge qui disait que Google avait aussi sorti, enfin avait aussi déposé un certain nombre de marques, dont une qui s'appelle Aptop. Et c'est vrai que bah on n'en sait pas grand-chose, mais a priori, ils ont déposé deux marques. Ils ont déposé une marque qui s'appelle Aptop et une autre marque qui s'appelle Bye Bye Laptop, Hello Aptop. Ouais, c'est ça. Donc, c'est un peu bizarre de déposer ce genre de slogan, mais ce que ça laisse penser, c'est qu'il y a de grandes chances pour qu'ils lancent une campagne de pub au sujet de cette nouvelle vague de entre guillemets nouveaux appareils qui ne seraient plus des laptops mais qui seraient des aptops. Je pense qu'au niveau marketing là ils auraient peut-être pu faire un tout petit peu mieux mais on va voir comment les choses vont se dérouler et l'idée c'est ça c'est un ordinateur portable sur lequel vous faites plus tourner des logiciels mais vous faites tourner des
C'est
applications.
le grand tournant, ça d'ailleurs, j'en parlais encore ce matin. C'est vrai que le terme logiciel a disparu même pour les utilisateurs Windows. Enfin, je ne sais pas si autour de toi c'est ça, mais je discutais avec un collègue et il me fait: Ah bah tiens, j'ai installé l'application Microsoft Office sur mon PC et je regarde. Il fait: Non, ce n'est pas une application, c'est un logiciel. Enfin, il y a eu un petit débat autour de ça. Et c'est vrai que enfin, les applications ont balayé le terme logiciel. C'est assez étonnant.
Ouais, c'est ça, c'est un concept qui est tellement fort grâce aux smartphones qui sont enfin le smartphone est devenu l'appareil de micro-informatique entre guillemets, même utiliser le terme micro-informatique fait un peu sourire, mais c'est vraiment l'appareil informatique le plus de type informatique le type d'appareil informatique le plus répandu quoi. Donc le concept d'app est de fait un terme qui est aussi extrêmement répandu, extrêmement populaire et assez universel compris par beaucoup de monde. Donc finalement, c'est assez logique pour Google d'essayer de capitaliser sur ce terme pour lancer une nouvelle une un nouveau c'est plus du
Ouais, ce
marketing
sera du
mais bon peut-être
marketing.
que les usages vont suivre aussi et finalement on se dira plus j'utilise tel site web mais j'utilise telle app que ce soit sur le web ou que ce soit une web app ou que ce soit une app de type app Android native quoi.
Ouais. Oh, c'est cool. Encore de bonnes nouvelles.
Donc voilà. Voilà, donc les aptops. Préparez-vous aux aptops. Peut-être qu'il faudra qu'on rebaptise le podcast et qu'on l'appelle le Aptop Show.
Pourquoi pas?
À voir,
On pourra le
à
faire en tout
voir.
cas. Alors, pour continuer sur Aptop, les applications et compagnie, on va clôturer ou presque ce podcast parce qu'on approche les 1 heure de podcast. Et je voulais vous parler de ma Logitech encore une fois parce qu'il y a des applications que j'aime bien, des extensions que j'aime bien sur Chromebook et j'aime bien vous les partager de temps en temps. Et il y en a une que j'apprécie particulièrement, elle s'appelle Distil Web Monitor. Je vous mettrai le lien pareil dans la description du podcast. Distil Web Monitor, c'est une extension Chrome qui surveille les sites web. Alors, certains vont me dire, bah ouais, mais il existe les flux RSS. Ah ouais, je suis d'accord, les flux RSS vont nous apporter les news en fonction des nouveaux articles, des nouveaux textes qui sont mis en ligne par le site web. Par contre, moi j'aime bien avec Distil Web Monitor, c'est quelque chose qui va aller un peu plus loin que uniquement regarder le texte. En fait, cette extension, tu la connais d'ailleurs, Thomas?
Non, 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 je la connais pas, j'ai jamais
Alors,
utilisé, mais
tu
je
vas
l'écoute
voir.
avec intérêt.
Ouais, si tu scrutes la concurrence régulièrement, si tu scrutes un prix enfin, ou une modification sur un site web, c'est l'extension qu'il vous faut sur Chromebook, hein. En fait, elle scrute le code source de la page web. Alors, une partie ou tout. la partie de la page web que tu veux, hein. Tu as juste à sélectionner les endroits que tu veux scruter. Et ce qui est génial, c'est que dès que la page web, le code HTML, enfin le code du site internet est modifié par le développeur, automatiquement, tu en es alerté. Alors typiquement, moi, je travaille dans un marché assez concurrentiel en France, puisque je travaille dans le marché de la téléphonie, dans les fournisseurs d'accès Internet, et du coup, on a de la concurrence assez acharnée, et du coup, je scrute en permanence mes concurrents. Et à chaque fois qu'il change un truc, alors il y a une icône qui a été modifiée, une icône, pardon, pour bien parler français, une icône qui a été modifiée, automatiquement j'en suis alerté et je vais aller vérifier ce qu'il en est. Et j'ai juste à double-cliquer dessus pour qu'il m'amène à l'endroit de la modification. C'est juste génial parce que du coup je ne passe pas mes heures et des heures à regarder ce qui se fait à la concurrente. Dès qu'il touche un truc, je le sais. Alors typiquement, ça peut servir par exemple. Tu vois, enfin, tu suis, je vais parler des fournisseurs d'accès Internet par exemple, tu suis les conditions générales d'un fournisseur, c'est 120 pages, c'est impossible à tout lire tout le temps en permanence, c'est difficile à savoir ce qu'ils ont changé dans leur page. Ben, moi j'ai mis DistiWeb dessus, et dès que ça change, tac, ça m'alerte, il me dit tiens, ce paragraphe-là il a changé, et du coup j'ai à lire que ça, et ça c'est juste génial. Moi, je vous le recommande tous. Alors, vous regardez pour des prix d'avion, pour des matchs, des résultats sportifs, des résultats pas sportifs non plus, et pour la concurrence. Enfin, moi, j'ai ma veille concurrentielle qui est faite comme ça, et je trouve cette application juste exceptionnelle. Donc, je vous invite à la télécharger. Et en plus, elle est gratuite. Tu veux la télécharger
Génial.
maintenant?
Je vais la télécharger et je vais
Et
l'installer.
tu vas voir,
Je te ferai un retour la
c'est
prochaine
cool
fois.
parce que c'est vraiment quelque chose de. Moi, j'aime bien. On va finir le podcast si tu es d'accord, si tu veux, parce qu'à un moment, il va falloir que je te laisse aller travailler. Toi, c'est le matin, moi, c'est la fin de journée. Je voulais faire un petit focus sur deux choses. Déjà, remercier tous ceux qui nous écoutent parce que aujourd'hui, même si on est un petit podcast, on n'est que le troisième épisode, c'est déjà pas mal. On est déjà très content d'en avoir fait trois et surtout de la façon dont on le fait, puisqu'on est des pros Chrome OS et on a tout fait sur Chromebook. On est les seuls au monde à faire ça, je crois. Hein. Google devrait nous payer pour faire notre podcast. On enregistre sous Chromebook, on fait le montage audio sous Chromebook, on le diffuse sous Chromebook, bref, on est pro Chromebook. Et je voulais vous remercier parce que on a pas mal de retours. Alors, il y a un premier retour que je scrute régulièrement, c'est le nombre de personnes qui s'inscrivent à notre podcast. Et officiellement, on a passé la barre des 100. Alors, je sais pas comment ça s'appelle, podcast écouteur, auditeur, auditeur, c'est peut-être bien, non? On a
Auditeur,
passé la barre des
auditeur.
100 auditeurs il y a quelques jours. Et je remercie ces 100-là. Je ne vais pas les citer parce que je ne sais pas qui c'est. Je ne sais pas si on peut voir qui a fait. Mais je vous remercie tous. C'est assez impressionnant en sachant qu'on est sur un marché de niche, qu'on commence à peine. Et merci pour vos encouragements. En tout cas, quand vous cliquez sur télécharger ou suivre, bah, nous, ça nous motive encore plus. Moi, ça me motive beaucoup plus encore quand je sais qu'il y a des gens qui m'écoutent. Et déjà que j'ai Thomas qui me motive tout le temps pour enregistrer, il me harcèle quand est-ce qu'on enregistre, quand est-ce qu'on enregistre. Mais je le remercie qu'il continue à me harceler. Grâce à vous, bah, on continue à enregistrer. Puis on en a encore plein de prévus. On ne va pas s'arrêter là. Donc continuez. Merci. Merci Thomas. Merci tous les auditeurs. Un autre petit focus sur un truc qui me tient à cœur, j'ai lancé il y a maintenant 4 mois, 5 mois, un Tipeee. Alors un Tipeee, c'est genre, bah, vous pouvez participer à l'évolution de mychromebook.fr et du podcast et de tout ce qui tourne autour de ça, enfin tout ce que je peux réaliser autour de ça. Le Tipeee, c'est genre vous me payez un café, vous me donnez 1 euro si vous le souhaitez, vous n'êtes pas obligé, vous pouvez juste me faire un petit coucou et me dire c'est génial ce que tu fais, continue, ou c'est pas forcément génial, tu as des améliorations à faire, tiens, je te donne des idées. Ou des idées d'articles. Ce Tipeee, ben, grâce à ça, ben, on peut enregistrer le podcast. On peut, parce que ça coûte un petit peu d'argent, l'air de rien. C'est pas grand-chose, c'est pas non plus énorme. Ça coûte du temps surtout. Le site évolue beaucoup grâce à vous, puisque j'ai pu acheter des thèmes, j'ai pu faire évoluer, j'ai acheté des accessoires. Je voulais vous acheter un Chromebook, vous le faire gagner, mais malheureusement, mon Tipeee est pour l'instant un peu faible. L'idée, c'est voilà. Plus vous tipez, plus je suis motivé. Alors, c'est même pas une histoire d'argent, c'est que d'un seul coup, je me sens obligé, je me sens redevable de vous donner quelque chose de qualité. Thomas et moi, on essaye en tout cas d'améliorer notre podcast régulièrement. Thomas, encore plus que moi, parce que lui, il a même investi, il est allé acheter un Chromebook Samsung Plus. J'aurais fait pareil si j'en avais, mais lui, il l'a fait. Et donc le Tipeee, aujourd'hui, on est une vingtaine, une trentaine à tipper tous les jours. Et une fois par mois, je reçois une petite somme qui me permet. Alors pour l'instant, je vais pas même me payer un repas avec ça, hein, c'est pas possible. Mais c'est pas grave, je suis motivé grâce à vous et je vous en remercie. Alors je vais pas vous citer tous parce que même si vous n'êtes qu'une vingtaine, ce qui est déjà énorme, je pensais qu'il n'y aurait jamais personne qui cliquerait pour me donner un centime. Déjà, moi, je suis vraiment hyper content. Et il y a une personne que je vais pas citer pour pas, qui a donné une somme. Alors, on n'est pas obligé de donner, c'est du mensuel, en fait, vous donnez 1 euro, mais ça tombe tous les mois. Lui n'a pas donné mensuel, il a décidé de me donner directement 50 euros. Et ces 50 euros ont payé le thème My Combo, par exemple. Et il va se reconnaître, j'ai pas besoin de le citer. Merci à lui. Encore un remerciement, puis après j'arrête si j'arrête avec les remerciements parce qu'à un moment j'ai l'impression d'être aux Oscars et puis quand on voit ce qui s'est passé aux Oscars, c'est pas forcément très judicieux. Un autre remerciement aux tous les autres podcasts qu'on a eu auparavant, donc les deux autres, on vous a demandé de faire un feedback, un retour par mail, par commentaire, comme vous le souhaitez. Pour ceux qui ont Hangouts qui me poquent sur Hangouts, sur le podcast, qu'est-ce qui est bien, qu'est-ce qui l'est moins, qu'est-ce qui est à améliorer, à changer, à modifier, bref, enfin, donnez-nous votre ressenti, ce que vous voulez dans le podcast. Et lui, je vais le citer parce que c'est le seul à l'avoir fait. Alors les autres, ils nous disent tous que c'est bien, donc bon, bah, c'est bien, on est parfait, c'est génial, merci Thomas, t'es génial. Par contre, Pascal est allé un petit peu plus loin. Il nous a dit que c'était bien. Merci, Pascal. Il nous a dit que le concept était super intéressant, hyper jovial et compagnie. Par contre, il nous a aussi dit qu'on avait quelques difficultés. Il nous a fait un retour hyper intéressant par mail. Et j'espère qu'aujourd'hui, le podcast, on l'a changé à la dernière minute pour essayer de coller à ce qu'il m'avait dit. Donc j'espère que Pascal reviendra vers moi pour me dire c'est mieux, c'est moins bien, enfin c'est différent. En tout cas, merci à lui et j'attends vos retours aux 100 autres qui nous écoutent pour nous dire si c'est bien, si c'est pas bien. Qu'est-ce qu'on peut dire d'autre, Thomas? Je pense que c'est pas mal. Si une chose, où est-ce qu'on te retrouve, Thomas?
Alors, on peut me contacter sur Twitter. Donc, moi, c'est @léthargiquepanda.
Ouais, on va mettre le lien.
Parfait. Et voilà. Et n'hésitez pas à nous faire du retour. Et les gens sont en général assez sympas dans leur retour. Donc, ça fait toujours plaisir. Et puis, même si vous avez des choses dont vous n'êtes pas satisfait, si vous avez des retours constructifs à faire, n'hésitez pas. On est vraiment preneurs.
Ah ouais, franchement, Pascal était sympa dans sa démarche et dans les explications qu'il m'a données, il était plutôt très judicieux. Et donc, c'est à prendre. Toute critique est à prendre à partir du moment où elle est constructive. Donc, allez-y, n'hésitez pas. On peut t'embêter sur Twitter quand même. Si nos amis viennent te liker, enfin, comment on fait sur Twitter, te suivre sur Twitter, ils peuvent te poser une
Ouais,
petite colle quand même.
avec plaisir. Ouais, on essaye de répondre. Il y a Mathieu, prof du
Ouais.
web, qui nous ping assez régulièrement sur Twitter, donc avec
Qu'on
plaisir.
remercie aussi, pour ceux qui ne le connaissent pas, c'est notre papa à nous deux finalement pour les podcasts. En tout
Ouais,
cas pour moi c'est
c'est
le cas,
ça.
c'est lui qui m'a inventé Podcaster, pour toi je crois
Ouais,
aussi.
c'est ça.
Donc allez le suivre sur Twitter, @ prof du web, l'éclectique show, putain, c'est dur à dire ce qu'il a fait. Et puis Relife aussi qui est un excellent podcast qui renaît de ses cendres. Allez les voir, allez les écouter, allez l'écouter. Bon, après, il a un accent bizarre, encore pire que le mien, je vous rassure. Voilà, je crois que c'est tout ce que j'avais à vous dire. Je crois qu'on peut vous laisser vaquer à vos occupations. Vous pouvez éteindre votre podcast, comme diraient les guignols, et retourner à la vie normale. Je vous dis, moi, pour ma part, à ciao. Je te laisse le mot de la fin, Thomas, parce que tu as beaucoup parlé, tu as beaucoup donné de ta personne
Voilà,
aujourd'hui.
bah ouais, non, comme on l'a dit, ça fait toujours plaisir d'avoir des retours. Vous êtes de plus en plus nombreux à nous écouter, donc c'est globalement on fait du bon boulot, mais on a vraiment besoin de votre retour pour améliorer les choses. Donc n'hésitez pas à nous dire ce que vous en pensez. Est-ce que ça vous donne envie d'acheter des Chromebooks? Est-ce que ça vous donne pas envie d'acheter des Chromebooks? Est-ce que vous avez des choses que vous voulez savoir sur les Chromebooks qu'on n'a pas forcément couvert? Voilà, tout feedback constructif est le bienvenu et merci encore. Thank you.